Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Faire le tour du monde, s'expatrier, voyager en van, voilà des modes de vie qui peuvent faire rêver. Beaucoup y pensent, certains l'envisagent et d'autres le font tout simplement. Laurent et Florian, alias les Coflocs, réalisent des documentaires sur le thème du voyage et de l'aventure. Je les ai rencontrés sur le Festival du Nomade à Paris, où ils étaient présents pour projeter leur film « Les Nouveaux Nomades », un documentaire de portraits croisés qui donne la parole à ceux qui ont fait le choix de vivre en van. La van life, un nouveau concept qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, hein, qui consiste à voyager et habiter dans un véhicule aménagé, aussi bien pour le week-end que d'une manière parfois indéterminée. Certaines personnes font le choix de vivre en van, donc voilà, les Coflocs, vous diffusez ce week-end le film Les Nouveaux Nomades. L'idée, c'est de prendre le temps dans cette émission d'apprendre à vous connaître et vous rencontrer. Donc l'idée, c'est de vous rencontrer tous les deux, à savoir un petit peu qui se cache derrière les Coflocs, qui vous êtes, ce que vous faites, ce qui vous a amené à la vidéo et pourquoi axer aussi vos documentaires sur le thème du voyage. Donc Florian et Laurent. Donc Laurent, raconte-moi l'aventure des Coflocs, comment ça a commencé et pourquoi?
Alors déjà, Cofloc, ça veut dire coloc, flow et l'eau. Parce qu'à la base, on était coloc pendant 7-8 ans, je crois. 6-7 ans. Je ne sais plus. Bref, on était coloc au début. Et nos potes nous appelaient les Coflocs parce que coloc, Florian, Laurent. Et voilà. Et pour la petite histoire, pour raconter ça assez rapidement, les Coflocs, c'est quoi? Moi, à la base, je viens du marketing, de la communication. J'ai tout plaqué. J'ai changé de vie. J'ai fait un tour du monde. Et en rentrant de mon tour du monde, j'avais envie de lier ma passion du voyage avec mon métier. Et par hasard, j'ai rencontré Florian, qui avait fait une école de cinéma en Australie, qui lui rentrait de voyage et qui avait envie aussi de vivre de sa passion du voyage. Et de fil en aiguille, on a commencé à associer nos compétences et à bosser ensemble. Et c'est là qu'est née l'aventure des Coflocs.
On retrouve beaucoup ça aujourd'hui chez les voyageurs, cette envie d'être aligné entre ce qu'on est, ce qu'on fait et notre manière de vivre, un peu ce rêve de créer sa réalité, de la rendre possible et développer un modèle économique autour de ça. Il y avait un sage indien, Satish Kumar, qui disait « Arrêtez de chercher du travail, essayez de le créer et jamais vous n'aurez l'impression de travailler un seul jour de votre vie. »
Eh bien, merci. C'est vrai que cette citation, elle représente bien ce qu'on fait chez les Coflocs et un petit peu la ligne de vie que je me suis mis. Je dirais pas imposé parce que c'est venu un petit peu tout seul. Mais lorsqu'à 16-17 ans, je filme des premières vidéos de skate avec mes potes au lycée. Après, je grave des DVD. On est au début des années 2000. J'ai qu'une seule passion, c'est d'aller skater, d'aller faire du snow, d'aller filmer, de faire ensuite du montage sur des bandes montage analogiques encore. Voilà, je me passionne pour l'image et j'avais un rêve d'adolescent, c'était de partir vivre en Australie. Je voulais partir le plus loin possible de chez mes parents, le plus loin possible de chez moi. Je voulais vraiment partir sur un voyage initiatique, je voulais me retrouver. Et dans ces 2 ans que j'ai passé en Australie à l'âge de 19 ans, non seulement je me suis rendu compte que j'adorais faire de la vidéo, du cinéma, de l'image, de la pellicule, tout ça, mais surtout que j'adorais faire de la photo, voyager dans toute l'île continent et puis poster ça sur des réseaux sociaux à l'époque qui s'appellent Skyblog. Ça va faire marrer tout le monde, mais voilà, j'adorais partager ça et disons qu'à l'époque il y a énormément de gens qui regardent ces blogs, c'était avant Facebook, et qui se disent, mais moi aussi je rêve de partir en Australie. J'ai décidé à ce moment-là d'allier ma passion et mon travail et de me dire, il faut que j'arrive à vivre de ces vidéos, de ces photos de voyage, pour motiver un maximum de monde à vivre l'expérience initiatique que j'ai vécue, parce que ça a changé ma vie et j'aimerais que ça change la vie des gens qui en ont envie en tout cas. Et donc à ce moment-là, je lance un blog, je lance des vidéos de la semaine, des vlogs à l'époque, ça s'appelle même pas encore vlog, YouTube est tout frais. Et je rencontre un jour en 2012 Laurent, ce gars du marketing qui vient de changer de job, enfin qui vient de quitter son job et qui lui rêve aussi de vivre de sa passion de voyage. Et à ce moment-là, en 2012, à Paris, on se dit « Écoute, on est là, on a du temps devant nous, il faut qu'on bosse, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de filmer nos voyages, de professionnaliser ça et de pouvoir le partager et en vivre à plein temps pour rendre le monde un peu meilleur selon nous, quoi. » Et donc après, c'est l'histoire des Coflocs de ces 10 dernières années, quoi.
Donc le thème du voyage, on est en plein dedans, tu parles de voyage initiatique, c'est quelque chose d'assez récurrent, j'entends que beaucoup de gens qui partent en Australie reviennent à des étoiles plein les yeux, sont tous partis avec un visa vacances-travail, et c'est vrai que ça change vraiment une vie, ou même le voyage au sens large peut complètement nous transformer. Donc j'aimerais bien savoir quelle est votre définition du voyage, qu'est-ce que c'est que pour peut-être pour toi d'abord, Laurent, voyager.
Voyager, bonne question. Je me suis jamais posé de question. Bah voyager, ouais, pour moi c'est vraiment découvrir de nouvelles cultures et c'est surtout la rencontre en fait. Parce qu'en fait on peut aller n'importe où, même ici on peut aller pas loin de Paris, on peut aller à Cergy-Pontoise où on est aujourd'hui. Et puis c'est aussi un voyage en fait. On découvre d'autres choses et puis surtout on rencontre plein de gens fabuleux. Ouais, je pense que pour moi le voyage c'est avant tout rencontrer des gens différents qui nous expliquent leur culture, leur manière de vivre. Ouais, c'est avant tout ça.
Et toi, Florian, ta définition du voyage?
Moi, j'ai de la chance parce que du coup, tu m'as laissé le temps de réfléchir à la question en écoutant Laurent. Pour moi, le voyage, en fait, c'est vraiment rencontrer les autres et se rencontrer soi. C'est-à-dire que quand on part, déjà par définition, on part vers l'inconnu et là, on va rencontrer des gens qui viennent de plein de mondes différents, pas seulement des pays, pas seulement des cultures, mais on va refaire le monde autour d'un verre. Avec des gens qui ont toutes sortes de jobs, qui ont toutes sortes de familles, de backgrounds. Et en fait, ça nous ouvre l'esprit. En fait, on peut se dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait? Ce gars-là, il a fait ça, il y est arrivé, en fait, c'est possible. Et en fait, j'avais un peu ce regret qu'en France, on motive jamais assez les gens à faire ce qu'ils aiment, à aller sur le chemin de leur légende personnelle, mais plutôt de suivre un petit peu un moule, de rentrer dans un moule. Et qu'en fait, moi j'ai découvert ça et le voyage, ça m'a apporté ça et j'espère que ça apporte à pas mal de gens cette ouverture d'esprit à travers la rencontre d'autres gens, de se dire, ben voilà, aujourd'hui je peux faire le bien autour de moi, je peux faire des choses motivantes et en fait, sur n'importe quel thème, le voyage, ça montre que tout est possible.
Puis ça change aussi le regard qu'on a sur son propre pays en fait. Moi j'ai voyagé dès que j'ai pu, j'ai fait mon Erasmus, enfin j'ai fait un peu tout ce qu'on peut faire dans ce qu'on voit dans différents films. J'ai fait Erasmus en Allemagne, j'ai fait un VIE en Allemagne, j'étais expat aux Pays-Bas et en fait je me suis rendu compte de la richesse de mon propre pays une fois que j'étais ailleurs. Et en fait quand on vit en France, on se rend pas compte de toute la richesse qu'a ce pays, de tout ce qui est possible de faire. Et c'est une fois qu'on est ailleurs qu'on se rend compte de la chance qu'on a de vivre ici. Et puis je pense que ça devrait être obligatoire, mais comme à l'époque du service national, chaque jeune devrait passer au moins 6 mois, 1 an à l'étranger. Pour se confronter à l'autre, se confronter à d'autres cultures, et puis ça enrichirait tout le monde, enfin des gens au point de vue de l'humanité. Je pense que les gens seraient plus en empathie. Ouais, c'est en fait si tout le monde voyageait, les gens seraient plus en empathie les uns envers les autres et comprendraient mieux les différences entre chacun. Ouais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'Ecoflog, c'est une boîte de prod, une réalisation de documentaires, plusieurs films déjà à votre actif. Hier soir, j'en ai vu un, donc on va s'intéresser à celui-là. Les nouveaux nomades, donc c'est un peu un phénomène de mode aujourd'hui, presque un phénomène de société. La van life, de plus en plus de gens ont envie de prendre la route en van life. Qu'est-ce que c'est que cette van life? Qui c'est qui veut m'expliquer un petit peu à quoi correspond ce mode de vie?
La van life, c'est le fait de vivre et de voyager dans un combi ou un van aménagé. Donc à la base, notre film partait sur ce point de vue-là. C'est un phénomène de société qui a démarré. C'est pas nouveau en fait. Il y avait déjà des van lifers dans les années 50, les années 70, au moment des hippies. Et en fait, la van life est vraiment redevenue à la mode il y a, on va dire, une dizaine d'années aux États-Unis, avec le fameux hashtag van life qui s'est lancé en même temps qu'Instagram. Et donc ça s'est repopularisé là-bas. C'est arrivé en Europe et là c'est vraiment devenu une tendance, un phénomène de société. Et en fait, les différents confinements aussi ont donné cette envie de liberté, de reconnexion avec la nature, avec soi-même. Donc il y a un vrai engouement là-dessus. Et la van life, c'est pas seulement le fait de vivre dans un van, mais c'est vraiment prendre conscience aussi de son environnement extérieur. Et comme disait Flo avant, c'est se reconnecter avec soi-même et avec la nature. Et quand on est en van, on se rend compte la beauté qu'on a autour de soi, de la nature qu'on a autour de soi. Comme quelqu'un dit dans le film, en fait, on a le monde comme jardin. On peut choisir où on peut dormir chaque soir. Et en fait, la van life, c'est vraiment ça. C'est vivre dans son environnement magnifique.
Mais quand on parle de van life, tu dis que c'est pas un phénomène nouveau, c'est vrai qu'on pense au combi Volkswagen, c'est ça, ça a apparu grâce à ces combis dans les années 60-70.
Ouais, c'est ça, en fait, le combi Volkswagen, bah, il fête ses 75 ans, donc c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est le fait, Flo dit souvent que c'est le côté, c'est Internet et la 4G qui ont remis la van life au goût du jour, et c'est vraiment ça. C'est que le fait de maintenant de pouvoir travailler dans son van, ça a créé des digital nomades, donc des gens qui vivent et voyagent dans leur van et travaillent en même temps, et ça, ça a vraiment repopularisé ce phénomène.
Qu'est-ce que cherchent les vanlifers que vous avez rencontrés? Quelles sont les motivations, en tout cas ce qui revient dans les motivations de ces nouveaux nomades?
Alors la motivation des nouveaux nomades, des vanlifers, comme on vient de le dire, c'est vraiment une envie d'un peu plus de liberté et un peu moins de sécurité, je dirais. Aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu la question parce que j'étais inspiré aussi sur le qu'est-ce que la vanlife, mais... En effet, pour nous, c'est vraiment la 4G qui a envoyé les gens sur les routes ces 10 dernières années, puisqu'aujourd'hui, on peut travailler depuis son van, on peut travailler depuis Internet. Il y a beaucoup de gens qui font ça, et puis récemment, le nouveau mot à la mode, c'est télétravail. Et c'est quelque chose qui est possible à faire dans un van. Donc aujourd'hui, les gens recherchent de l'indépendance, ils recherchent de la liberté, et ils recherchent de l'indépendance. Contrairement à une société où on cherchait toujours un maximum de sécurité, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup, toujours plus de freelance, en fait. On se rend compte que dans la société, quand même, dans la belle société dans laquelle on vit, il est quand même possible aujourd'hui de développer une activité en freelance. Et tout ça, c'est possible de n'importe où dans le monde. Donc, c'est pas valable pour tous les métiers, mais c'est possible aujourd'hui d'avoir un ordi et puis de vendre des photos, des vidéos, de fabriquer des sites internet. Et puis, il y a beaucoup d'autres jobs aussi. Il peut y avoir des infirmières à domicile. Il y a toutes sortes de comptables aussi qui sont en freelance. Donc pour moi, Internet a remis les gens sur la route, et ce que cherchent ces gens en fait dans la van life, c'est de quitter une vie sédentaire pleine de sécurité, pleine de codes dans un moule, et créer, façonner un petit peu comme un diamant leur vie sur mesure, puisqu'aujourd'hui c'est possible et c'est beaucoup plus simple.
Tu parlais de télétravail, il y a un autre terme dont on entend beaucoup parler, c'est les digital nomades. Est-ce que c'est la même chose d'être un digital nomade et de télétravailler ?
Les digital nomades, à la base, c'est vraiment des gens qui bossaient vraiment que sur leur ordinateur. Donc, c'était au début des blogueurs, des graphistes, des photographes, etc. Et je pense qu'avec le confinement et tout ce qu'on a connu avec la pandémie, le télétravail a vraiment ouvert la possibilité des différents métiers. Parce qu'au début, on pouvait faire que ces métiers créatifs, entre guillemets, à distance, en digital nomade. Mais maintenant, la plupart des entreprises permettent de travailler à distance n'importe où dans le monde. Et donc, on peut tout à la fois être salarié d'un grand groupe et bosser en télétravail à l'autre bout du monde.
Est-ce que tu peux me parler de cette évolution, de cette arrivée en masse ici sur notre territoire ?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que beaucoup de Français qu'on retrouve sur les routes aujourd'hui en van ont attrapé leur passion, leur virus en Australie. D'ailleurs, je crois que c'est ton cas. et en fait, c'est assez logique. En Australie, tout est assez simple au niveau des démarches. Et c'est très, très simple d'arriver en Australie en étant étranger, de pouvoir acheter une voiture, voyager avec et la revendre. Pour plein de raisons, toutes les démarches sont simplifiées. Une voiture en Australie fait facilement 500 000 km parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de montagne, c'est des lignes droites. Enfin, les voitures sont plus solides, enfin, c'est plus facile de garder une voiture en Australie aussi. Donc, et là-bas, il n'y a pas de système de train. Alors, on va me faire mentir parce qu'il y en a un. Personne ne prend le train en Australie. En Australie, il faut un véhicule personnel. Donc, là-bas, tout est simple. Et quand on revient d'Australie, on se dit, mais pourquoi on ne le ferait pas en France ? Beaucoup de gens partent de ça. Et cette ruée des vanlifers, elle vient de la ruée vers l'Australie, puisque le Working Holiday Visa, le PVT, Permis Vacances Travail, en Australie, ça date de 2004. Donc on est toute une génération, en fait, à être revenu d'Australie avec cette passion, et de se dire qu'on peut vivre sur la route. Et aujourd'hui, il y avait ce phénomène, justement, d'Internet, ce phénomène de liberté qui est possible aujourd'hui. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que quand nous, avec Laurent, en 2015, on se dit, on va retaper ce vieux combi Volkswagen T3 Synchro pour pouvoir justement faire nos tournages dedans, faire nos montages vidéo dedans et vivre partiellement dans ce van. On fait des petites recherches sur Internet et très vite sur Pinterest, sur Instagram, on trouve hashtag vanlife. Et on se rend compte que comme d'habitude, les États-Unis ont ouvert les portes. Hein, les États-Unis, c'est depuis 2012 que cette mode a vraiment repris. En France, on doit toujours attendre normalement une dizaine d'années. Nous, on rigole quand on entend parler de quelque chose aux États-Unis. Pour que vraiment ça devienne populaire en France, on doit attendre une dizaine d'années. Et là, La mode de la van life a pris une ampleur incroyable, c'est du jamais vu. Depuis 2015-2016, on était là un petit peu au tout début, on était dans les premiers un petit peu à en parler en France, on était quelques blogueurs. Et aujourd'hui, il y a déjà, avant le confinement, il y avait une grande mode de ça. Et la preuve, on a eu la chance de pouvoir rédiger un guide Michelin sur 52 week-ends en van, qu'on a rédigé juste avant le confinement, qui est sorti juste le premier jour, je me rappelle, c'était le 11 mai 2020, à la sortie du confinement. Ce livre qui devait se vendre à, enfin, une impression, c'est 7500 exemplaires, il s'est vendu à 25 000. Donc en fait, il y a eu une explosion et des ventes de vannes et des ventes de tout ce qui tourne autour du van aménagé. Il existe aussi aujourd'hui des véhicules qui sont beaucoup plus simples à conduire, à entretenir et à aménager soi-même. Et il y a toute une démocratisation en fait de vivre dans un van aménagé qui fait qu'on est quand même très loin du punk à chien, on va dire, comme tu le disais avant, qui va aménager son van un petit peu à l'arrache, comme moi je le faisais à mes 18-20 ans, dans mes premiers combis, où je voulais juste survivre dans un van, travailler en saison et faire la fête tout le temps, ce qui était d'ailleurs absolument superbe.
Il y a la dimension esthétique qui prend beaucoup de place aussi dans la van life, non ? Il y a beaucoup de mise en scène.
Bah ouais, surtout avec l'arrivée d'Instagram, la plupart des vans sont vraiment instagrammables. Et en fait, il faut voir la différence entre la réalité et ce qu'on voit sur Instagram. Parce que si vous mettez vos jolis petits pots de confiture, vos petites épices en haut, je suis pas sûr qu'en roulant, ils tiennent bien. Donc, faut aussi faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'Instagram a rendu les vans beaucoup plus beaux, avec des beaux aménagements en bois, des petites plantes, etc. Donc, ça a rendu le milieu très, 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 très visuel.
Puis il y a aussi un truc, c'est que il y a quand même un énorme ras-le-bol de la société telle qu'on l'a connue. On vit quand même une énorme révolution en fait. Et aujourd'hui, je crois que les gens en ont marre de travailler plus pour posséder plus de choses qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils utilisent dans le but de les travailler plus et ainsi de suite. La fameuse histoire de travailler toute sa vie pour s'acheter une voiture pour aller au travail. Aujourd'hui, il est possible d'acheter une voiture dans laquelle on va travailler et dans laquelle on va dormir, vivre des aventures. Et tout ça, il faut que ce soit très esthétique. Moi, je crois que je suis aussi, en tant que photographe, vidéaste, je suis aussi pour le beau, pour l'esthétique. Bien sûr, la notion subjective du beau, ça ne veut pas dire que tout doit être formaté, bien au contraire, mais que chacun doit voir du beau, de l'esthétique dans sa vie. Et je trouve, moi, que ce n'est pas péjoratif que les gens veuillent absolument avoir une vie instagrammable. Et puis voilà, même si ce n'est pas toujours la vérité, mais les gens, peut-être, sont en train de quitter le matérialisme pour avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique, de beaucoup plus sympa. Et voilà, ça fait plaisir, en fait.
Ouais, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où sévit une famine de l'essentiel, et c'est ce qu'on voit bien dans votre documentaire hier soir. Il y a énormément de punchlines, de phrases qui sont citées par les 7 ou 8 portraits croisés que vous avez filmés dans Les Nouveaux Nomades. Cette notion d'essentiel, ce retour à l'essentiel. J'aimerais bien que vous me citiez un petit peu des phrases qu'on peut voir dans le film et des réflexions qui reviennent régulièrement chez les vanlifers. Je trouve que ça fait du bien de se rappeler à quel point on s'est éloigné de l'essentiel et de la simplicité.
Ouais, c'est vrai que le retour à l'essentiel, ça fait vraiment une partie intégrante de ce film. Comme je disais avant, c'est vraiment le minimalisme qui est vraiment une partie vraiment importante du film. C'est que les gens se sont rendu compte qu'ils avaient besoin de peu pour vivre heureux, en fait. Parce que dans notre société de consommation, on a besoin d'avoir le dernier iPhone, le dernier truc à la mode, et finalement, dans un van, dans quelques mètres carrés, on n'a pas de place pour mettre plus. Donc, en fait, dans si peu de mètres carrés, on a juste quelques t-shirts, on a juste l'essentiel pour vivre, et finalement, on se rend compte que ça suffit largement. Donc, il y a ce côté-là du minimalisme de biens de possession, et ensuite, l'autre chose importante dans la van life, c'est vraiment la consommation des ressources naturelles. Dans un van, on n'a pas l'eau qui coule à volonté comme dans son appartement ou sa maison. Donc on fait attention à l'eau, on fait attention aux produits qu'on consomme. Et donc c'est ça qui illustre vraiment ce retour à l'essentiel qui est vraiment très présent dans la van life et qui permet d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et l'importance de respecter l'environnement actuellement.
C'est comme si aujourd'hui on revenait un petit peu sur cette illusion du matériel où on nous a fait croire pendant des années que être, c'est avoir. Alors qu'aujourd'hui on se rend compte qu'en se dépouillant de toutes ces possessions matérielles, c'est là qu'on découvre réellement qui on est.
Bien sûr, en fait, je crois que le mot-clé, c'est le minimalisme. Le retour à l'essentiel, en fait, c'est possible. Et je crois que c'est ça le message du film. C'est-à-dire que c'est pas juste une idée utopique. Aujourd'hui, on peut vivre avec peu, en fait, et s'éclater. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une vie très très riche en fait, très très riche de rencontres, très très riche de refaire le monde, très très riche de, voilà, de faire l'apéro avec des potes et tout, et de travailler quand même, et de gagner quand même de l'argent, parce que je crois que c'est aussi le message, c'est-à-dire que on peut aussi, voilà, vivre de sa passion. C'est aussi une notion qui fait un peu mal aux oreilles aux Français souvent quand on en parle, hein. Mais on peut gagner, voilà, nous on a des gens dans notre film qui nous racontent gagner 1500 euros à deux en tenant des blogs, des sites internet, tout ça, et en fait, ben, 1500 euros à deux, c'est possible, on peut vivre. Et dans un van, on a besoin d'un peu d'essence, on a besoin de recharger en eau, on a besoin de manger, tout ça, mais on peut revenir à l'essentiel, acheter les ingrédients et se faire à manger soi-même. On peut faire vraiment tout avec finalement assez peu. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont possibles et qui ne sont plus aussi marginales. C'est des choses qui ne sont plus aussi marginales qu'avant, en fait. Aujourd'hui, on peut très bien vivre là, dans un beau van, se faire plaisir tous les jours avec assez peu.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Il y a une dimension que tu as un peu abordée, j'aimerais qu'on développe le côté écologique. C'est vrai que quand on voit un documentaire avec des vannes, on se dit les mecs ils grillent du pétrole, du kérosène, alors qu'en fait, ou du diesel. Alors qu'en fait il y a aussi cette compréhension des ressources qui sont limitées. Et d'ailleurs vous abordez ce sujet dans le film, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus.
En fait déjà en van, quand on voyage en van, finalement on fait moins de kilomètres à l'année que quelqu'un qui prend son van tous les jours pour aller au travail. Parce que quand on voyage en van, on bouge pas tous les jours. On voyage en van, on trouve un petit spot sympa, on se pose sur place, et après justement, quand on reste sur place, on consomme local, on fait attention à son eau, donc on s'approvisionne en eau, on consomme souvent des produits locaux, on s'approvisionne chez des producteurs locaux, que ce soit en viande, en légumes, etc., en fruits, et donc en fait on soutient l'économie locale. Donc il y a déjà ce point là qui est vraiment très important, et l'autre aspect, ouais, l'environnement, c'est vraiment le côté de l'eau. Et il y a Ludivine qui dit dans le film, qui dit un jour elle est allée dans des toilettes, et là elle s'est rendue compte qu'en fait l'eau des toilettes c'était de l'eau potable, et elle dit dans certains pays on galère à trouver de l'eau potable, et là on se rend vraiment compte que nous on utilise de l'eau potable pour nettoyer nos besoins dans les toilettes. Et ça c'est un petit message dans le film, et qui permet de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir de l'eau qui coule encore à profusion aujourd'hui, et on sert tous les jours pour plein de choses, et donc ça permet de se rendre compte qu'il faut pas gaspiller cette ressource naturelle.
Et aussi cette notion de se reconnecter aux lois du vivant, au cycle de la nature. Quand on vit en van, les éléments on les appréhende différemment que quand on est dans un appartement. Cette envie de se rapprocher de la nature, dans, ouais, les Van Leffer, ouais, qu'on a vu, on a vu qu'il y avait cet amour du vivant. La plupart des gens, c'est une quête de liberté, mais c'est aussi une envie de se retrouver en pleine nature.
En fait, on se reconnecte vraiment avec la nature quand on vit en van, parce qu'en effet, il y a une des choses, c'est que souvent le grand public se demande en van comment on fait, c'est tout petit, ça fait 2 mètres carrés, où est-ce qu'on fait pipi, caca et où est-ce qu'on se douche. La vérité, c'est que la seule grosse galère en van, c'est l'humidité. C'est l'humidité, le froid, le chaud, on vit vraiment avec les éléments. On doit savoir où va se lever le soleil demain matin, parce que si ça tape à travers les vitres en été à 6h30 du matin, on est en train de cuire. S'il fait froid, bah, c'est une galère, et quand il pleut surtout, bah, on peut pas sortir du van, et là ça devient très vite tout petit. Parce que c'est vrai qu'en temps normal, nous on a l'habitude de dire le monde est notre jardin. C'est-à-dire qu'on a un tout petit espace de vie, n'empêche que l'extérieur il fait le monde entier. Donc c'est comme ça qu'on se reconnecte à la nature. Et puis bah, on voit tout de suite les eaux sales, on voit où est-ce qu'elles coulent, et à chaque fois qu'on doit vider, bah, on va vider ça dans des aires de camping-car qui sont faites pour, on est obligé. On vit la nature, nous on a pris conscience de ça, notamment ben, de se dire ben, déjà on va passer au shampoing solide, on va passer aux savonnettes bio, on va passer au liquide vaisselle bio aussi, parce que ben, c'est tout simple en fait, hein, mais quand on lave sa vaisselle dans le van, après il y a de l'eau sale, et cette eau sale on la voit en fait, elle est là, elle est palpable, et donc ben, ça devient important pour nous de se dire ben, ça au moins à la limite elle peut retourner à la nature sans salir, sans polluer. Donc il y a cette reconnexion-là, et puis il y a la reconnexion plus spirituelle. Franchement, quoi de mieux que de vivre chaque lever de soleil et chaque coucher de soleil qui existe. Je veux dire, c'est un spectacle gratos. C'est fantastique, et en plus, pour nous, photographes, bon, bah, c'est absolument génial. Donc cette quête du beau, c'est aussi d'aller chercher un spot, d'aller trouver un spot dans lequel on ne va pas déranger la nature, on ne va pas polluer la nature. Et je voulais aussi dire par rapport à l'écologie que nous, on a un message très fort dans nos films en général qui est « Voyagez, allez-y, faites le premier pas, sortez des sentiers battus et allez voir ce qui se passe ailleurs. » Et en fait, Ça, c'est une chose qui s'oppose un petit peu quand même à l'écologie quand on y pense, basiquement, quoi, hein, parce que quand on voyage, on se déplace, et quand on se déplace, ça prend de l'énergie. On pense clairement avec Laurent que le monde serait meilleur si tout le monde était allé voir ce qui se passait ailleurs. On voit quand même un monde meilleur avec des peuples qui s'ouvrent, des peuples qui voyagent. Donc, nous, notre idée aujourd'hui, c'est d'essayer de voyager le plus écologiquement possible. Rien n'est encore parfait, on n'est pas donneur de leçons, mais on sait qu'on peut commencer à changer des petites choses qui, l'une après l'autre, vont faire des grands changements.
Dans le film, ces différents portraits croisés de vanlifer, comment vous avez choisi vos sujets ?
Alors déjà, comment on a choisi les vanlifers pour commencer ? Alors pour les vanlifers, en fait, on a fait un appel à témoins sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. On a demandé à chaque vanlifer de nous remplir un petit formulaire en expliquant qui ils étaient, pourquoi ils ont choisi ce mode de vie-là. On leur a demandé de faire une petite vidéo. Et on a eu 900 personnes qui nous ont répondu. Et puis nous, on a dû faire notre choix parmi ces personnes-là. Et en fait, pour la petite histoire, on a choisi chacun de notre côté. Et en fait, on est tombé sur les 9 mêmes personnes. Et en fait, c'est devenu une science infuse presque pour nous. Parce qu'en fait, il y avait tout le monde était bien parmi les 200. Enfin, on aurait voulu prendre tout le monde, mais on cherche vraiment les gens qui ont les yeux qui brillent quand ils racontent une histoire. Et en fait, là, on a vraiment des portraits de gens qui ont quelque chose à raconter. Ils ont tous une histoire différente, qu'ils soient célibataires, en couple, retraités, jeunes, en France ou à l'étranger. Et en fait, ils avaient les yeux qui pétillaient quand ils parlaient de la van life. Et c'est comme ça qu'on a fait notre choix.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On l'a vu, la van life fait rêver. Beaucoup de gens la fantasment ou peut-être l'idéalisent aussi, parce que la réalité peut être différente une fois qu'on se met réellement sur les routes à vivre dans un van.
La réalité de la van life, du coup, c'est un petit peu différent des réseaux sociaux, hein, de ce qu'on peut voir. Il y a les jours où il pleut, il y a les jours où il fait froid, il y a les jours où on a pris un virage un peu serré et ça a viré toutes les épices par terre. Voilà, et puis bah après, c'est une vie d'indépendant, donc souvent c'est du travail indépendant. Donc en fait, ça veut dire qu'on n'a pas toujours du travail, ça veut dire qu'on n'est pas sûr du lendemain. C'est cette notion de sécurité qu'on perd un petit peu. Je crois que la vie est organisée autour de deux notions fortes qui sont la sécurité et la liberté. Et quand on tire le curseur d'un côté, on en perd un petit peu de l'autre. Donc je voudrais dire qu'en France aujourd'hui, on parle de van life, on a le sourire aux lèvres, on est là, on parle d'une vie passion. Mais il faut aussi dire qu'on parle d'une vie choisie. La van life, telle que nous on la décrit là, c'est vrai que c'est une vie choisie.
Parce que tu as un film qui est sorti en même temps que le vôtre, où là c'était plutôt une van life, mais subie.
Tout à fait, il y a le film Nomadland qui a reçu un Oscar aux États-Unis, qui est un film de Francis McDowell, s'appelle, je sais plus, bref, et qui est un film d'Américains qui malheureusement n'ont pas eu le choix, qui sont retrouvés au chômage, ils ont subi la crise des subprimes et ils n'ont pas d'autre choix que de vivre dans un van. Donc c'est pas du tout la même chose de subir la van life que de la choisir. Et donc nous en France et en Europe, tous les van lifers qu'on a filmés pour notre film, c'est que des gens qui l'ont choisi. Donc c'est un moyen d'être libre, heureux, minimaliste, etc. Mais les Américains, malheureusement, il y en a pas mal qui l'ont subi. Et donc eux, ils aimeraient bien habiter dans une résidence pavillonnaire, une petite maison en banlieue, une résidence pavillonnaire, et ils vivent dans un van, sans famille, sans sécurité sociale, sans rien. Et c'est pas du tout la même chose.
C'est un peu pareil que le minimalisme ou que la sobriété heureuse, quand elle est choisie et quand elle est subie, parce qu'on est encore complètement dans ce carcan social où on a l'impression qu'on est à travers ce qu'on a, là du coup on le vit très mal.
Bien sûr, en fait on le voit aussi sur le sujet par exemple du voyage, de l'expatriation. On a fait un film qui s'appelait Génération Expat, qui est d'ailleurs disponible aussi sur YouTube, sur les Français qui décident de partir à l'étranger, et le sujet de se dire, est-ce qu'on est migrant? Est-ce qu'on est expat? Quand est-ce qu'on est un expat et quand est-ce qu'on est un immigré? En fait, on est un immigré à chaque fois, mais le terme est compliqué, puisque expat, on voit souvent quelqu'un qui est envoyé par son entreprise française, travaille à l'étranger, avec le côté un petit peu colon, qui n'est pas le côté des gens qu'on est allé voir non plus, qui sont des gens qui s'intègrent et ainsi de suite. Mais un mot migrant, immigré, qui est de valeur péjorative, malheureusement, en fait, ça, pour moi, c'est la différence entre le choix et le non-choix. C'est-à-dire que dans la vie, voilà, la van life, c'est pareil. Si c'est un choix, si on a envie de se donner les moyens d'une vie meilleure, et que pour nous, une vie meilleure, c'est une vie comme ça, qui est en adéquation avec nos valeurs, alors c'est possible et c'est pas si compliqué. Maintenant, si c'est une vie subie, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus dramatique. Et en effet, c'est d'autres, d'autres tenants et d'autres aboutissants.
En tout cas, vivre en van, c'est possible. Et créer sa réalité, c'est possible aussi. J'aimerais qu'on termine par des punchlines, des citations. Dans le film, hier soir, il y avait des très belles phrases. Peut-être terminer par ce travail-là qui a été fait, parce que vous avez trouvé des super punchlines.
On a une super phrase de Sylvain Tesson, et je crois qu'il décrit bien notre mode de vie, qui est quelque chose comme « Certains hommes rêvaient... » Attends, je vais la retrouver. « Certains hommes rêvaient d'apparaître dans l'histoire, nous étions quelques-uns à vouloir disparaître dans la géographie. »
Et vivre, c'est faire de ses rêves un souvenir. Ah, et en fait, cette punchline, moi je l'adore, et en fait, elle illustre vraiment aussi notre parcours à nous. C'est qu'en fait, il y en a qui rêvent leur vie, mais en fait, il faut y aller, il faut foncer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, en tour du monde, en expatriation, si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Et dans notre dernier film qui s'appelait Génération Tour du Monde, la phrase de fin, c'était « Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin ». Et en fait, je pense que c'est vraiment ce qui nous guide, nous tous les deux, dans notre vie tous les jours. Bah, si vous avez des rêves, allez-y, foncez, faites-le. Et au pire, ce qui risque de vous arriver, c'est de retourner dans ce que vous faisiez avant. Et comme vous êtes déjà heureux dans ce que vous faites maintenant, bah, vous n'avez absolument rien à perdre.
Les Coflocs, merci à vous pour le travail inspirant que vous nous proposez. Donc, toutes les vidéos sont disponibles gratuitement sur YouTube.
Exactement, bah sur notre chaîne l'Ecoflog, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, l'Ecoflog, et vous trouverez notamment nos derniers films, donc Génération Working Visa, Génération Expat, Génération Tour du Monde et Van Life, les nouveaux nomades.
Yes, merci à vous.
Excellent, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.